La Bible en 24 heures, 13e heure. Nous avons terminé la semaine dernière l'Ancien Testament. Et avant vraiment de s'engager dans le Nouveau Testament, c'est un bon moment pour faire un peu la pause, revoir peut-être certaines choses qu'on a évoquées, mais je sais que peut-être tout le monde n'était pas là à l'époque. Et puis prendre un peu de perspective sur le Messie. Lorsqu'on était en école biblique au Canada, il y avait une librairie formidable. Il y avait plus de 50 000 ouvrages évangéliques, chrétiens, la plupart en anglais. Et il y avait des petits trésors dans cette librairie. Et il y en avait un en particulier qu'on nous avait recommandé qui s'appelait « Le Messie dans les deux testaments » par un certain Fred John Meldau. Et sur la couverture de ce livre, il était dit que c'était la preuve absolue de l'existence de Dieu, de la divinité de Christ, de la vérité du christianisme et de l'inspiration de la Bible. Et l'auteur était tellement convaincu qu'il offrait, à l'époque, ça doit remonter aux années, à la fin des années 50, il offrait plutôt une récompense de 1000 dollars, c'était une grosse somme à l'époque, c'est sans doute l'équivalent de 20 000 dollars d'aujourd'hui peut-être. Et il disait, la Bible n'a pas de compétition, c'est le seul livre au monde qui contienne de vraies prophéties. Le Christ n'a pas de compétition, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Il est le seul dans l'histoire du monde dont la vie avait été prédite, qui est venu du ciel pour être le sauveur de l'humanité. Et il disait, le christianisme est basé sur ces deux faits, la Bible est la parole de Dieu inspirée, et Christ est le Fils unique de Dieu. Et il disait, nous offrons une récompense de 1000 dollars à quiconque, premièrement, montrera qu'il y a un autre livre à côté de la Bible, qui a des prophéties vérifiées d'un Messie qui viendrait. Deuxièmement, la même promesse à quelqu'un qui pourrait montrer un autre Christ, qu'il soit vivant ou mort, autre que Jésus de Nazareth, qui puisse accomplir, remplir seulement la moitié des prophéties qui ont été dites, écrites sur le Messie par la Bible et dans comme il les explique dans ce livre. Et apparemment, en 67, il avait imprimé 200 000 copies de ce petit livre, et il n'y avait toujours pas de récompense offerte. Personne n'avait pu relever le défi. Il est important que nous puissions parler intelligemment de notre foi. Pouvoir la présenter, et c'est, encore une fois, c'est pas mon idée, c'est l'idée de l'Esprit-Saint qui l'avait notamment inspiré à l'apôtre Pierre. Dans quel passage ? 1 Pierre, quoi ? 3:15. Rappelez-vous de tous les passages intéressants, les 3:16 ou les 3:15. 3:15, il y a souvent des passages très importants. Et dans ce verset, l'apôtre Pierre disait « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que la même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ, soient confondus. Puis l'ajoutez, mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Mais il nous encourage à être prêts à faire ce qu'on appelle, le mot grec, c'est l'apologie, c'est-à-dire défendre logiquement, par nos expériences aussi, la raison de notre espoir, de notre espérance en Christ. Et ce soir, on va voir quelques éléments qui vont nous permettre de faire cela. Dimanche dernier, j'ai eu une conversation avec Perrine et Elodie après le culte sur la petite terrasse. Et la grande question que Perrine se posait, c'était: que doit-on dire des autres religions? Qu'est-ce qu'on doit en penser? D'autant qu'il y en a qui sont plus anciennes que la foi chrétienne. Alors on ne va pas reprendre toute la conversation. Mais c'est une très bonne question. Et c'est vrai que dans un monde pluraliste, où chacun a le droit d'avoir sa propre conception des choses, je vote à droite, vous votez à gauche, on vote au centre droit, au centre gauche, chacun doit... Il n'y a plus vraiment de vérité absolue. Et j'avais partagé quelques idées avec Perrine et Elodie, mais ça a suscité d'autres idées. D'abord, la première chose, c'est que Christ, c'est vrai, s'est incarné, il est devenu homme il y a près de 2000 ans. Mais sachez qu'il a existé de toute éternité et que Moïse a écrit la Bible il y a près de 1200 ou 1500 ans avant Jésus-Christ. Et notre foi chrétienne a les origines les plus anciennes. Abraham, ça remonte à entre l'an 2000 avant Jésus-Christ et l'an 1700, il y a une incertitude. L'hindouisme, lui, remonte, c'est la plus ancienne des grandes religions ou des croyances religieuses, c'est vers 1600 avant Jésus-Christ. Moïse, lui, est arrivé sur la scène donc à peu près en l'an 1200 ou 1500 avant Jésus-Christ. Les vieilles religions orientales comme le taoïsme, le confucianisme, ça date de 600 ans avant Jésus-Christ. Bouddha, qu'on pense toujours être la plus vieille religion, c'est 500 ans avant Jésus-Christ, bien après Moïse, bien après la révélation que constitue l'Ancien Testament, une grande partie de l'Ancien Testament, puisqu'on a dit qu'on s'arrête à peu près à l'an 400 avant notre ère, avec la fin de l'Ancien Testament. Bouddha, c'était donc 500 ans avant Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'était 4 ans avant Jésus-Christ. Vous le saviez peut-être, la date de naissance de Christ, on a revu et maintenant on pense qu'il y avait un petit décalage de quelques années. L'islam, la religion musulmane, ça date de 600 ans après Jésus-Christ. Les Mormons, 1830. Témoins de Jéhovah, c'est aussi la fin du 18e, 19e siècle plutôt. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vous disent qu'il y a des religions plus anciennes que la nôtre. Alors, c'est vrai qu'il y a des anciennes croyances religieuses, mais dès le début de l'humanité, lorsque on voit Adam et Ève, il n'y a personne avant eux. Et eux avaient une relation avec Dieu, ils marchaient dans le jardin jusqu'à ce qu'ils succombent au péché. Ça, c'est un premier aspect. Un autre aspect dont j'ai pas parlé avec dimanche dernier, c'était et c'est pourtant caractéristique et c'est fondamental. C'est une démarche, je préfère parler de foi chrétienne que de religion chrétienne, en quoi la foi chrétienne est à l'opposé des religions humaines. Pourquoi ? Parce que les religions parlent toujours des efforts du fini vers l'infini. C'est l'homme qui essaye, par un code de conduite, à s'approcher de Dieu. Et c'est toujours dans la plus grande incertitude, jamais dans la paix, dans la confiance. Et on sait que le fini, lui, ne peut pas atteindre l'infini. C'est une opération, un effort voué à l'échec dès l'origine. La foi chrétienne, au contraire, c'est une démarche complètement différente. C'est l'infini qui vient vers le fini. C'est le tout-puissant qui vient vers le faible. Ça peut marcher, ça marche, c'est un effort qui ne peut même pas échouer. C'est Dieu qui vient vers les hommes. Donc ça, c'est une différence aussi essentielle. On parlait aussi et on disait, c'est vrai qu'il y a des religions qui ont des préceptes très, très beaux, très nobles, très moraux. Et je disais, en fait, c'est sûr que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc nous avons tous en nous cette possibilité d'avoir ces aspirations nobles, ces idéaux de morale. La grande différence, c'est que dans ces religions, il y a les idéaux, mais il n'y a pas la force pour les atteindre, pour les vivre. Dans la foi chrétienne, c'est l'homme qui doit laisser Dieu vivre à sa place. Galates 2:20, c'est un verset très important auquel on revient souvent. « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis pour vivre la vie chrétienne, je dois m'effacer et laisser Christ vivre en moi. » Quelque chose qui fait beaucoup de tort à la foi chrétienne dans nos temps de tolérance, c'est que, en fait, la foi chrétienne est très exclusive. Et on dit, pourquoi est-ce que ce serait la seule foi qui permettrait de rencontrer Dieu ? L'idée, c'est qu'en fait, Dieu est au sommet de la colline, et que si on vient d'Aspremont, si on vient de Nice, ou si on vient de Falicon, du moment qu'on continue de monter, on va se retrouver tous au même point à côté de Dieu. C'est une belle image, mais ce n'est pas la réalité. Pourquoi je peux le dire ? Parce que la Bible nous dit que le salut ne se trouve en aucun autre. Ça, c'est Actes 4:12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus lui-même, ses apôtres, ses évangélistes qui l'ont dit. Jésus était très exclusif. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à Dieu que par moi. Et c'est vrai qu'on aimerait des fois pouvoir dissiper toute tension avec ceux qui nous entourent en disant « Mais vous êtes libre de croire ceci, peut-être qu'après tout, c'est vrai, mais c'est faux. » Si nous croyons que la Bible est inspirée, que c'est la parole de Dieu, alors nous devons les avertir qu'en fait, il n'y a qu'un seul chemin. J'aime bien quand même ce que dit l'apôtre Pierre. Il nous dit d'être prêt à donner la raison de notre espérance, mais il dit de le faire toujours avec douceur et crainte. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé de m'emporter en défendant la foi chrétienne, c'est jamais la façon de faire. Je me souviens d'un début de ma foi chrétienne, j'allais avec un petit groupe témoigner dans la rue, et il y avait ce évangéliste, entre guillemets, très zélé, quand les gens ne se mettaient pas d'accord avec lui, et qu'il partait, il leur criait « Tout genou fléchira !» Et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur, tu verras. C'était pas la meilleure façon, c'était pas du tout ce que demande l'apôtre Pierre lorsqu'il nous dit de partager avec douceur. Et donc, on est en tension avec le monde qui nous entoure parce que le message est un message exclusif. Et on est dans une société où le pluralisme est devenu la religion. La tolérance a été élevée au niveau d'une vertu, et j'apprécie beaucoup la tolérance lorsqu'elle est source de bons rapports entre les hommes, qu'elle évite les conflits, les guerres, les choses vicieuses et méchantes. Mais en matière de vérité, la tolérance n'est pas un bon outil. Si vous me dites que 2 et 2 font 5, et que vous me dites « je vais faire ta comptabilité », je lui dirai « je suis désolé, mais je suis intolérant, 2 et 2 font 4 ». Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on ne va pas pouvoir aller très loin ensemble. L'évangile, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné Mohamed, il n'a pas donné Bouddha, il n'a pas donné Confucius, Lao Tzu ou quiconque. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, Jésus était très exclusif, mais si c'est la vérité, autant être exclusif. Si on vous donne un mauvais chemin, vous n'y arriverez pas. Un autre élément pour comparer les religions, c'est que il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ou 12 ans, qu'on a retrouvé, je crois que c'était au Népal, les ossements de Gautama. Gautama, c'était le nom du Bouddha. Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Mais on a trouvé ces ossements. Est-ce que vous savez où se trouvent les ossements du prophète Mahomet ? Ça, c'est quelque chose à savoir lorsque vous parlez avec des amis arabes et musulmans. Ils ne le savent probablement pas, mais il y a une mosquée à Médine qui s'appelle la mosquée du prophète. Et dans le Coran, il est dit, le prophète Mahomet disait, « Celui qui me visite après ma mort, c'est comme s'il m'avait visité de mon vivant. » Donc il savait qu'il allait, être reposé là. La foi chrétienne, c'est un tombeau vide. Et comme le disait l'autre, suivez qui vous voulez, moi je veux suivre un Christ ressuscité. Je veux suivre un Christ vivant. Donc ça, c'est quelques éléments pour parler des différentes religions. Toujours le faire avec, encore une fois, c'est pas pour prouver aux gens qu'ils ont tort, mais c'est pour montrer ce qu'on a reçu, ce qu'on a compris. Et on ne demande pas de convaincre les gens, on nous demande de leur en parler, de leur dire la foi, l'espérance, les raisons de l'espérance qui est en nous. L'autre grande différence entre la Bible et les autres religions, et là on en avait déjà parlé, on va peut-être faire un petit retour pour ceux qui n'étaient pas là quand on en a parlé à maintes reprises. Pour ceux qui connaissent tout ça, je vous demande d'être un peu patient. Ce sont les prophéties dans la Bible. Les prophéties, c'est-à-dire que c'est voilà un livre dans lequel il est écrit ce qui va se passer dans le futur. Et pour beaucoup de ces prophéties dans le futur, maintenant elles sont déjà dans le passé et on a vérifié qu'elles s'étaient produites. J'en avais parlé, je crois, la dernière fois ou une des dernières fois. On a dit que la Bible c'est un système, un message intégré de Dieu pour les hommes. On a dit qu'en fait Dieu, il était en dehors du temps, qu'il n'était pas soumis aux mêmes contraintes que les hommes, parce qu'il est Dieu et nous ne sommes que des créatures. Et Dieu, parce qu'il est en dehors du temps, il peut signer son message, nous faire un clin d'œil pour nous montrer que ça vient de lui, justement par ses prophéties. Parce que les prophéties, elles éliminent le temps. Jésus dit, ou la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit des choses qui vont arriver dans le futur, et ces choses sont arrivées. Et dans Ésaïe, il y a même des passages où Dieu se revendique cette exclusivité à pouvoir annoncer des choses à l'avance. On voit ça dans la presse des magazines. Les astrologues nous disent les grands trucs, mais généralement, il y a peu de choses qui se réalisent. Il y a des choses énormes qui n'ont pas été prévus. Je crois pas que les tours de Manhattan, c'était dans les prédictions de Paris Match ou de Ici Paris ou je sais pas quel autre journal. Et bien sûr, lorsqu'on dit qu'il y a la Bible a des prophéties, les gens disent, oh mais non, c'est pas des prophéties, c'est des choses qui ont été écrites après. Et c'est vrai que c'est facile de dire après coup qui était le vainqueur du dernier Grand Prix de Formule 1. Si je dis que je prévois que Michael Schumacher va gagner la dernière course, c'est pas très impressionnant parce que j'aurais pu regarder la télé ou les journaux. Et dans ce schéma, Dieu a suscité la Septante. La Septante, ça vient du mot 70, qui est en fait la traduction en grec de l'Ancien Testament qui était lui écrit en hébreu ou en araméen. Et cette Septante, on en a des copies, et historiquement, on est sûr que ça a été terminé, achevé en l'an 250 avant Jésus-Christ. Les copies des plus célèbres, c'est par exemple le Codex Vaticanus, le Sinaiticus qui est à Londres, l'Alexandrinus à Londres aussi. Et en fait, on a l'assurance que ce sont vraiment des choses qui ont été écrites 250 ans avant qu'elles ne se réalisent, en tout ce qui concerne la naissance, la venue de Jésus-Christ sur terre. Et ça, c'est imparable. Il faut être de mauvaise foi pour dire que ces prophéties ne sont pas arrivées. Il y a dans la foi chrétienne beaucoup de gens qui n'ont pas cette connaissance qu'en fait, un peu à l'image de ce que faisait ce monsieur, on peut prouver que la Bible est vraie. On a trop tendance à se dire c'est une question de foi, c'est une question personnelle, c'est une question entre vous et Dieu, c'est dans votre cœur intérieur. C'est faux. La Bible a des éléments objectifs qui en font un livre unique. Et lorsque vous mettez votre foi en Christ, vous ne faites pas un saut dans l'inconnu bizarre, c'est pas du Nostradamus, c'est pas du truc. C'est Dieu ne nous laisse pas seuls pour prendre cette décision de placer notre foi en lui. Il nous donne tous les éléments. Malheureusement, nous ne prenons pas garde à les étudier ou à les transmettre à ceux qui ne les connaissent pas encore. La Bible, selon un auteur, il y a près de 8362 versets de nature prédictive. Quelque chose qui est annoncé pour le futur. Et ces versets peuvent être répartis en 1817 prédictions sur 737 sujets. Bref, la plupart de la Bible a une dimension prophétique, future. Avec Christ, cet auteur dit qu'il y a eu près de 333 prophéties messianiques. Alors, on avait déjà procédé à ce petit exercice, mais pour ceux peut-être qui n'étaient pas là, parmi ces 333 prophéties, il y a des prophéties quant au lieu de naissance. Michée 5:2 nous dit que Bethléem et Ephrata, c'est là qu'allait arriver le Messie. Matthieu 2:1 nous dit que c'est effectivement à Bethléem qu'est né Jésus. Alors, il est intéressant d'évaluer, c'est un auteur mathématicien qui s'appelait Peter Stoner. Il a écrit en 1969 un livre qui a été un tournant justement dans l'appréciation de la puissance de ces prophéties, qui s'appelle « La science parle ». Et là, il s'est intéressé à essayer de faire des calculs de probabilité. On fait des calculs de probabilité pour un peu tout maintenant dans notre société. Si vous regardez la météo, vous savez que demain, il y a 43% de chances qu'il pleuve ou pas. Et là, il se disait, ok, il y a ces versets qui se trouvent dans la Bible, peut-être qu'en fait, c'est simplement le hasard qui a fait qu'une personne, à un moment donné de l'histoire, a rempli ces conditions. Et il disait, par exemple, quelles sont les chances qu'une personne prise au hasard dans l'histoire de l'humanité naisse à Bethléem ? Je vous pose la question, à part Jésus, est-ce que vous connaissez personnellement des gens qui sont nés à Bethléem ? Bon, mais c'est du calcul de probabilité. Là, on peut dire qu'à l'époque, la ville faisait peut-être 10 000 habitants, et en fonction de la population mondiale de l'époque, on prenait une personne au hasard, et ce mathématicien utilisait la statistique, il y avait une chance sur 2400 que la personne soit née à Bethléem. C'est même peut-être un peu fort, à mon avis, mais c'est ce qu'il utilisait. Une autre prophétie, c'est qu'il devait être précédé d'un messager. Ça, c'est Ésaïe 40, verset 3. On sait par Matthieu 3:12 qu'il y a eu un messager qui s'appelait Jean-Baptiste, qui est venu l'annoncer. Quelles sont les chances qu'une personne prise au hasard et qui vienne quelque part est un messager qui vienne l'annoncer ? C'est beaucoup plus fréquent que de naître à Bethléem. Il a pris une chance sur 20. Après, on est en droit de contester les valeurs et de les ajuster, comme vous le souhaitez. Mais rien que cette démarche intellectuelle est très riche. Il est dit qu'il est entré, il devait faire une entrée à Jérusalem sur un petit âne. Ça, c'est Zacharie qui nous le disait dans Zacharie 9.9. Et ça se réalise dans Luc 19. Alors là, il y a les esprits chagrins qui diront, ben, c'est facile, il était au courant, donc il a cherché un âne. C'est possible, mais le mathématicien disait qu'il y avait une chance sur 50, 2% de chance que quelqu'un arrive à Jérusalem sur un âne. Par contre, la prophétie suivante, pour qu'il soit trahi par un ami, c'est moins facile à forcer. Ou alors on peut se conduire comme un ennemi et espérer que l'ami, entre guillemets, va se venger, mais... Ça, c'est le psaume 41:10 qui nous disait que le Messie allait être trahi par un ami. On sait dans Matthieu 26:47 que Judas, avec qui il avait vécu 3 ans, l'a trahi. Il l'a trahi pour un certain nombre de pièces d'argent. Est-ce que vous savez combien ont eu les frères de Joseph lorsqu'ils ont vendu leur frère? Combien? Ils ont eu en fait 20 pièces d'argent. Ça montre que le chiffre 30, c'est pas nécessairement le chiffre donné pour tout le monde. Certains pensent que c'était le prix avec lequel on pouvait acheter un esclave. Mais là, l'auteur disait qu'il y avait encore deux chances sur 100, une chance sur 50 pour que quelqu'un soit trahi pour 30 pièces d'argent. Qu'il ait les mains et les pieds percés, une personne au hasard qui se retrouve avec les mains et les pieds percés, il disait, bon, une chance sur 100, je crois que c'est beaucoup. Qu'on lui crache dessus et qu'on le batte, ça c'est Ésaïe 50, verset 6. Là, il disait une chance sur 10. C'est vrai que quand on voit les gens se battre entre eux, ou c'est peut-être plus fréquent, malheureusement. Un autre élément, la huitième prophétie qu'il considérait, c'était qu'en fait, l'argent de la trahison a été jeté dans le temps, puis utilisé pour... C'est revenu en fait à un potier. Là, c'est déjà plus particulier, mais on sait que lorsque Judas a trahi son seigneur, son maître, plus ou moins, Jésus, il s'était mis d'accord avec les chefs religieux dans le temple, et qu'en fait, cet argent, c'était l'argent du sang. Judas lui-même... C'est Satan qui avait pris possession de lui. Satan lui-même, par la voix de Judas, reconnaissait qu'il n'y avait rien en lui qui mérite cette mort, cette trahison. Et comme c'était l'argent du sang, les chefs religieux ont dit on ne veut pas le garder, mais on va acheter un champ au potier, le champ du potier, pour pouvoir enterrer les gens. Et ça, l'auteur disait qu'il y avait une chance sur 200 que ça puisse arriver par hasard. Alors vous connaissez un peu peut-être les théories des probabilités. Si dans un groupe il y a 70% il y a 70 femmes et il y a 30 hommes, la chance de trouver une femme dans le groupe, c'est une probabilité de 70%. Maintenant, imaginons que parmi tous les gens, et que ce soit réparti uniformément, il y ait un dixième de gauchers, les chances pour qu'on trouve parmi ces 70% de femmes des femmes qui soient gauchères, ça va être 10% de 70%, ça va être 7%. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie les probabilités pour arriver à la probabilité d'ensemble. Ou alors on pourrait dire, une autre façon de voir les choses, c'est prenons un homme au hasard, un homme ou une femme, pour qu'il naisse à Bethléem, on en a déjà éliminé plein. Maintenant, pour que cette même personne arrive à Jérusalem sur un âne, il va y en avoir encore moins. Et puis que cette même personne qui est née à Bethléem, qui est arrivée à Jérusalem sur un âne, se fasse trahir pour 30 pièces d'argent, ça va encore limiter le nombre de la foule qui peut-être existait au départ. Et donc ça, c'est des probabilités composées. Et lorsque ce mathématicien disait, en prenant simplement ces 8 prophéties, la probabilité pour qu'une personne prise au hasard dans l'histoire de l'humanité remplisse ces 8 prophéties par hasard, et il faisait le calcul, il arrivait à une probabilité de 1 sur 10 suivi de 17 zéros. 1 sur 10 à la puissance 17. Et en fait, ça revient pratiquement à dans l'histoire de l'univers. Est-ce que vous savez ce que dit quel est l'âge officiel d'après la science actuelle, parce que ça change souvent, de l'univers, grosso modo? Moi j'ai un chiffre que j'ai trouvé dans un ouvrage, c'est 16 milliards d'années. 16 que multiplie 10 à la puissance 9. Combien il y a de secondes dans un an? Ben, il y a 365 jours, il y a 24 heures, dans chaque heure il y a 3600 secondes. Ça veut dire que dans un an, il y a 31,5 ou 6 millions de secondes. Je vous suggère l'an prochain, lorsque vous écrivez vos cartes de vœux, plutôt que de dire « bonne année », vous pouvez écrire « je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur pour les 32 millions de secondes prochaines ». Si on prend les 16 milliards d'années et ces 31 millions, on arrive à peu près à 10 puissance 17. Donc, pour qu'une personne remplisse seulement 8 de ses prophéties, ça veut dire qu'on, dans toute l'histoire de l'univers, il y a une seconde qui a été choisie, et les chances qu'au hasard je prenne, si j'avais le choix de dire c'était à la seconde numéro, pour que je tombe dessus, c'est du même ordre de grandeur que Jésus ait réalisé 8 des prophéties. En science physique, lorsque un événement a une probabilité d'arriver qui est moins de 1 sur 10 à la puissance 50, donc 10 suivi par 50 zéros, c'est un très grand chiffre, les 10 suivi de tous ces zéros, 1 divisé par ça, c'est tout petit, et en science physique, lorsqu'un événement a ce genre de probabilité, on dit qu'il est impossible. On ne dit pas on va rajouter des millions d'années, des billions d'années pour essayer de faire remonter un peu les chances. Non, si on a un calcul scientifique et on trouve qu'un événement, que la rencontre d'une particule avec une autre particule a moins de chances, on dit ça ne va pas se produire. C'est impossible. Si on continue avec nos prophéties et en voyant les probabilités, si on prend le double de prophéties, on a une chance sur 10 à la puissance 32. Pour 48 prophéties, on a, cet auteur encore une fois, 1 sur 10 à la puissance 156. C'est des chiffres qui dépassent l'entendement. Mais Jésus n'a pas rempli 48 prophéties, il en a rempli plus de 300. Et donc, lorsqu'on considère cette approche, encore une fois, c'est pas de la science-fiction, c'est des mathématiques toutes simples, c'est du raisonnement honnête, qu'une personne ait pu au hasard remplir les prophéties, c'est absolument impossible. Le fait que ces prophéties, et ces prophéties sont pas, c'est pas un montage cinéma où on dit que ça s'est passé après, que ce soit passé, qu'on a prédit après leur réalisation. Non, la Septante nous montre que ces choses étaient des prophéties, des réelles prophéties. Et ça veut dire qu'en fait, on peut être sûr, comme le disait cet homme, que Jésus, c'est vraiment le Messie. Et je mets au défi les musulmans, les bouddhistes, toutes les autres religions de la terre et comme le disait Paul, même les anges s'ils venaient d'ailleurs, de tenir face à ce genre de raisonnement. Alors je sais que c'est pas le genre de raisonnement qu'on évoque souvent, parce qu'on a toujours cette idée que la foi ça doit être quelque chose de la sphère personnelle, c'est quelque chose, on peut aimer la poésie en alexandrin, on peut aimer la foi chrétienne tient la route. Il faut que vous en soyez convaincus, parce que il y a un ennemi à cette foi chrétienne. C'est l'ennemi, c'est le diable, c'est Satan qui nous calomnie et qui veut que nous ne soyons pas sûrs de notre foi, qui veut semer le doute. Un conseil, si vous voulez parler de la foi, ne parlez pas avec des gens qui ne connaissent pas encore la foi. Vous pouvez le faire, mais si je vais à la fac prendre des cours de maths, je ne vais pas apprendre les maths avec un élève qui est en première année alors que je suis en deuxième année. Non, je vais aller voir un professeur qui a plus de connaissances, de convictions. Et je suis toujours désolé lorsque je vois des jeunes croyants voulant bien faire, qui partagent leurs doutes en n'avançant vraiment pas les choses, parce que si je ne sais pas et que tu ne sais pas, comment est-ce qu'on peut savoir? Revenons à la Bible déjà. Et toutes ces discussions, elles sont bonnes lorsqu'elles sont faites avec la Bible et des versets. Parce que sinon, on peut partir sur de la philosophie, sur des fantaisies, mais encore une fois, votre foi a des fondements solides. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Jésus, vous connaissez ce raisonnement aussi, certains disaient qu'en fait, Jésus a dit qu'il était Dieu. Alors, il n'y a pas une phrase où il a dit « Je suis Dieu », mais il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». C'est pour ça que les chefs juifs voulaient le mettre à mort. C'est parce qu'il disait qu'il pouvait « Va, tes péchés sont pardonnés, prends ton lit et marche ». Et en faisant ça, il se déclarait l'égal de Dieu. Les gens à l'époque n'avaient aucun problème à comprendre ce qu'il disait. Il n'a jamais dit être simplement un grand homme. Il a dit « Je suis Dieu ». Bouddha n'a jamais prétendu être Dieu. Moïse n'a pas dit qu'il était Jéhovah. Mahomet n'a pas dit qu'il était Allah. Mais Jésus, lui, a dit qu'il était Dieu. Et devant cette affirmation, le raisonnement, c'est de dire qu'il y a, peut-être trois options, il y en a peut-être plus, mais pour l'intérêt de la discussion. Soit c'était une légende, au même titre que le chat botté ou les saints dalmatiens. Alors on peut dire qu'en fait Jésus n'était pas un personnage historique, mais ça c'est pas ce que reconnaissent les historiens. Personne ne conteste sérieusement qu'il y a eu une personne dans l'histoire du monde qui s'appelait Jésus. On trouve des références à son sujet dans des auteurs tels que Tacite, Pline, Joseph, Suétone. On peut penser peut-être que les disciples l'ont un peu idéalisé, hein, comme maintenant on parle de Gaulle, comme un personnage qui a grandi depuis sa disparition, quoi, qui était l'incarnation de la France. Le premier récit de sa vie date d'à peu près 50 ans après sa mort. Donc, il y avait encore des gens qui auraient pu être à même de dire « Non, il y a eu une déformation de la vérité. » Les multitudes de gens ont mis leur foi en lui, qui le voyaient. On peut donc éliminer cette option que Christ était une légende. L'autre chose, c'est que c'était peut-être simplement un menteur. En général, quand on ment, c'est pour tirer un profit, pour se faire passer plus fort qu'on est, pour essayer d'obtenir des avantages matériels. Mais quand l'idée de mentir ne rapporte plus rien, si on est menacé de mort, par exemple, à ce moment-là, on se dédie facilement. On dit non, j'exagérais un peu, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Lui a donné sa vie pour les autres. C'était sa vie, tout le monde pouvait le voir. Il disait « Je donne ma vie pour mes brebis ». On voit comment il s'est levé tôt pour avoir beaucoup de temps pour prier avec son père. Et après toute la journée, il était sollicité jusqu'au soir où il partait pour essayer de se reposer avec ses disciples. Et là, il y avait encore la foule qui l'attaquait, entre guillemets. Et il les servait, il leur parlait, il les encourageait. Lui, il n'a jamais vraiment cherché à tirer profit de sa position de Messie. Quand on lui a demandé... Quand il a demandé qu'on trouve un seul péché, personne n'a pu le faire. Ça, c'est Jean 8, 46. Donc l'idée que Jésus était un menteur, c'est pas bon non plus. Une option, c'est qu'il était peut-être un peu dérangé mental. C'était un fou. Comme le gars qui dit « Moi, je suis Napoléon ». Et pourtant, son comportement n'avait rien à voir avec le comportement d'un dérangé mental. Vous vous souvenez, lorsque les chefs religieux avaient envoyé les gardes pour l'arrêter, ils l'avaient un peu écouté, ils l'avaient entendu, et ils ne l'avaient pas capturé. Ils étaient revenus en expliquant que jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Ça, c'est Jean 7, 46. Pendant qu'il était torturé par le sacrifice, par le supplice de la croix, on l'insultait, lui il ne proférait pas d'insulte en retour, il est dit. Il n'a pas maudit, il n'a pas fait de menace. Ça c'est Pierre qui nous le dit dans 1 Pierre 2, 23. Après qu'on lui ait planté des clous dans les pieds, dans les mains, il a dit « Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font ». On n'a pas souvent vu des meurtriers, des fous prier pour leurs meurtriers. C'est pas du tout dans le caractère. Donc Jésus n'était ni une légende, ni un menteur, ni un fou. Et pourtant il a dit je suis Dieu. La conclusion logique, même si ça nous dérange, ça peut déranger certains, c'est que Jésus a dit vrai. Et devant ça, il faut soit le... On ne peut pas rester neutre. C'est un peu ce qui énerve les gens, c'est qu'ils savent tout de suite que avec Jésus, on ne peut pas rester entre les deux. On ne peut pas dire peut-être ben oui, peut-être ben non. Sa personnalité, sa vie nous force à dire je crois ou je ne crois pas. Il lui a dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La session ce soir s'appelle en fait la lignée messianique ou le fil messianique. J'aimerais qu'on revoie un peu ce qu'on a vu en anticipant un peu le Nouveau Testament. Il est question des fois du fil écarlate de la rédemption, the scarlet thread of redemption. C'est en souvenir de ce petit fil rouge que les espions avaient dit à Rahab d'accrocher à sa fenêtre pour que lorsque les Israélites ont pris Jéricho, sa maison et sa famille soient épargnées. Et cette idée de rédemption ou de rachat, c'est une idée qui est dans toute la Bible. Il y a deux notions dans cette idée de rédemption. Le mot rachat est plus commun. Il y a d'abord l'idée de libération, il y a un esclavage duquel on est libéré. Et puis il y a l'idée du prix payé comme une rançon pour cette libération. Et cette idée qu'on retrouve tout au long de la Bible. Ce fil rouge messianique, il commence dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez, lorsque Adam et Ève ont péché en obéissant à Satan, aussitôt ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont eu de la honte l'un devant l'autre. Ils s'étaient mis des feuilles de figuier. Et on me dit que les feuilles de figuier, c'est des feuilles qui sont pas douces sur la peau, il y a des petits piquants. Et Dieu le Père leur a donné des vêtements de la peau d'animal pour les vêtir. Et ça, c'est pas dit explicitement, de façon explicite, mais ça veut dire que il a fallu que Dieu fasse le sacrifice d'un animal, fasse couler le sang pour couvrir la honte, la nudité de l'homme après le péché originel. Ce fil rouge du rachat, il continue par ce que on trouve dans la Genèse 3,15. Vous vous souvenez de ce passage bien connu, où Dieu, après avoir interpellé l'homme et la femme, s'en prend au serpent, c'est-à-dire à Satan. L'Éternel Dieu dit au serpent, verset 14, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15, une espèce d'annonce de l'Évangile de façon primitive, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Le mot « descendance », c'est en fait le mot « semence », qui est apparemment un peu inexact scientifiquement. On pourrait penser que la semence, c'est l'homme, la semence de l'homme, et non pas la semence de la femme. Et c'est le terme qui est utilisé de façon explicite. La promesse de la croix, c'est que la descendance de Satan allait mettre à mort la descendance de la femme. Et on verra en étudiant la généalogie de Jésus que Jésus vient de la femme, qu'il a été écrasé. Quelque part, la croix a été comme un écrasement de sa tête. Pardon, écraser le talon, c'est Satan a écrasé le talon de Jésus à la croix. Par contre, en ressuscitant, en vainquant à la croix, Jésus a écrasé la tête de Satan. Ça, c'était la promesse de Genèse 3,15. Le sang allait couler là aussi. Et c'était cette promesse d'une solution au problème. Le péché était entré dans la race humaine, mais déjà il y avait le plan de rachat de l'homme qui était là. On sait que Caïn va tuer son frère Abel parce que son sacrifice avait été délaissé alors que celui d'Abel avait été reçu par Dieu. Mais la semence promise par la femme doit être sauvegardée, donc un autre enfant va naître, Seth. Lui, ça va être un homme de foi. Il est question de mariage avec des anges, d'où naissent des créatures hybrides, des géants, et le mal se répand sur la terre, et Dieu décide d'en finir avec l'homme, mais là encore, il préserve la semence de la femme en préservant Noé et ses trois fils, Sam, Shem et Japhet, et leurs épouses. Les populations commencent à grandir et contrairement à l'ordre de Dieu d'aller peupler toute la terre pour la dominer, les hommes décident de se concentrer au Moyen-Orient et de construire une grande ville et une grande tour pour que leur renom grandisse. C'est le fameux épisode de la tour de Babel où Dieu sème la confusion, c'est ce que veut dire le mot Babel, et force toutes les races de la terre à se disperser à la surface de la terre. Après Noé, on passait à Abraham. Abraham qui, lui, est arrivé sur la scène à une époque où l'idolâtrie était tragique. Dieu lui a demandé de quitter son pays et d'aller vers le pays qu'il lui montrerait. C'est ce que fait Abraham en obéissant à Dieu. Dieu lui promet une descendance qui bénirait toute la terre. Toujours cette idée de ce fil rouge de rachat qui est présent dans toute la Bible. Abraham essaye, vu son vieil âge et les conseils de sa femme, essaye d'avoir un enfant avec une esclave, Agar. Mais encore une fois, ce n'est pas la semence promise par Dieu, donc c'est une erreur d'Abraham. Et Isaac, le fils promis, arrive enfin dans leur vieil âge. Isaac va avoir deux fils, Ésaü et Jacob. Dieu va choisir Jacob et rejeter Ésaü. Il va, au terme d'un combat spirituel, Il va renommer Jacob Israël, c'est-à-dire prince de Dieu. Ensuite, il va y avoir la famine en terre promise, en Canaan, qui va forcer la famille à partir pour l'Égypte, où le fils qu'on croyait mort, Joseph, est devenu premier ministre. La famille va pouvoir survivre là-bas, s'installer, prospérer, jusqu'à ce qu'arrive un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui les force à l'esclavage. Mais toujours la même idée, Dieu protège, préserve le futur Messie qui doit arriver. Et dans toutes ces attaques que l'on voit, on peut voir aussi les attaques de Satan qui essaye d'écraser le talon, qui ne veut pas que ce Messie n'arrive. Le peuple est en esclavage, mais Dieu va susciter un prophète en la personne de Moïse pour délivrer son peuple. Ça va être aussi, vous vous souvenez bien sûr, de l'institution de la Pâque après ces plaies d'Égypte, cette dernière plaie où les premiers-nés vont mourir, sauf s'ils ont mis du sang de l'agneau qu'ils ont consommé à la hâte sur les portes de leur demeure. Et là, on voit encore le sang, le fil rouge du rachat dans Exode 12-13, où il est dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous le fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le sang servait de signe de quoi ? Que le sacrifice avait déjà, que la punition était déjà tombée sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'était l'agneau pascal qui préfigure Jésus-Christ. Le salut donc passe toujours par le sang, par ce fil rouge du rachat. On a dit que lorsque les espions envoyés par Josué sont arrivés chez Rahab, la prostituée qui les a aidés à échapper aux poursuites des soldats de Jéricho, ils lui ont conseillé, là encore, de mettre un fil rouge à la fenêtre pour que la colère représentée par les soldats d'Israël ne l'atteigne pas. On passe ensuite aux juges. Et on sait que l'époque était terrible parce que chacun faisait ce que bon lui semblait. Une période tragique dans l'histoire d'Israël qui se termine avec la naissance de Samuel. Et puis avec Samuel, on voit que le peuple commence à souhaiter avoir un roi comme les nations alentours. Dieu dit à Samuel de ne pas se faire de mauvais sens, c'est pas de sa faute à lui, c'est pas un jugement sur lui, c'est lui, Dieu, qui est rejeté. Samuel va oindre Saül pour être roi d'Israël. Il commence bien mais il termine mal. Il est remplacé par David, dont le début du règne est très beau. Il est au sommet de sa gloire. Et puis à la fin, il tombe dans le péché et même s'il est pardonné, l'épée demeure sur sa maison. Il a son fils Salomon qui lui succède, qui construit le temple, mais lui aussi se détourne de Dieu sous l'influence de l'idolâtrie de ses épouses. Dieu lui avait dit à Samuel que les rois ne multiplient pas les chariots, c'est-à-dire la puissance militaire, l'argent, l'or, ni les femmes. À la fin de son règne, Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Il avait vraiment multiplié les femmes. Ça conduit à la division du royaume d'Israël en deux royaumes, le royaume du nord, le royaume d'Israël, le royaume du sud, le royaume de Juda, qui partent en exil, le premier, celui du nord, en 721 en Assyrie, celui du sud en 586 à Babylone. Là, on faisait remarquer qu'en fait, il y avait eu trois bonnes choses qui étaient arrivées avec cette captivité à Babylone. c'est que les juifs ont cessé l'idolâtrie à partir de ce moment. Deuxièmement, c'est que comme il n'y avait plus le temple, il y a eu des... C'est le mot grec qu'on croit être un mot juif, c'est le mot synagogue, c'est-à-dire un lieu de rassemblement. Et de ces synagogues, on se retrouve aujourd'hui dans des églises. Et puis avec la captivité, c'est défini aussi l'ensemble de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le canon. Ça a été défini, on a parlé du scribe Esdras. Et donc, là encore, on voit comment, à travers les épreuves, des bonnes choses sont sorties. On a, dans les psaumes, on a vu qu'il y avait et dans les prophètes, on a vu qu'il y avait des prophéties concernant le Messie, des psaumes messianiques et des passages messianiques aussi dans Ésaïe. On voit à la fois le serviteur souffrant et le Messie triomphant qui vont arriver. Et au fur et à mesure que le peuple était persécuté par ses exils et ses choses, l'espoir messianique a grandi de plus en plus. Et puis on est arrivé à la fin de l'Ancien Testament et une période de 400 ans qui sépare les deux, où on voit la montée de l'Empire grec qui avait été prédit par le prophète Daniel. Et puis l'intérêt de la conquête grecque, là encore on voit la main de Dieu, c'est que ça, et non seulement les Grecs, mais peu de temps après l'Empire romain s'est installé et devenu puissant, et avec ces empires il y a eu l'unicité de langage, le grec est devenu l'anglais de l'époque, avant que ce soit le romain qui suive, et il y a eu aussi un système de low cost, d'avions qui permettaient d'aller un peu partout. Ces avions, entre guillemets, c'était les voies romaines qui permettaient la circulation des gens et des idées. Ça, c'est finalement la naissance du Messie qui arrive en pleine occupation romaine. Ça, c'est vraiment le fil rouge du rachat qui arrive. Jésus, on va le voir, vous le savez, il a souffert, il a annoncé l'évangile, l'amour de Dieu, il a montré qu'est-ce que c'était comment l'homme devait vivre, quelles devaient être les priorités de l'homme. Il leur a enseigné à la fin, ils comprenaient mal qu'ils devaient souffrir et mourir. Et la veille de sa crucifixion, il a dit, voici ce pain, c'est mon corps donné pour vous, cette coupe, c'est nouvelle alliance en mon sang. C'est encore le fil rouge du rachat. Et finalement, bien sûr, le sacrifice de la croix, là où le sang a coulé pour notre pardon, pour notre rachat. On dit qu'on est justifié gratuitement. C'est-à-dire que ça ne nous coûte rien à nous, mais ça a coûté tout à Dieu. Et encore, comme on l'étudiait dimanche dernier, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui nous l'a donné en sacrifice, est-ce qu'on peut penser qu'il va nous refuser des choses dont nous avons besoin? Ça, c'est le message aussi de Romains 8. Et puis, les lettres de Paul et de Jean, le grand thème, c'est cet amour qui a conduit au rachat. On voit encore une fois toute l'explication dans la lettre aux Hébreux du sens du sang versé à la croix. Et puis on arrive finalement à l'Apocalypse. Et vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, au chapitre 7, il est question de saints dont les vêtements ont été faits blancs, lavés blancs dans le sang de l'agneau. Là encore, on continue avec ce fil rouge du rachat. Et rien qu'en suivant c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre Bible. Maintenant, chaque fois que vous la lisez, prenez un crayon rouge et soulignez ces passages qui parlent de cette rédemption, de ce rachat qui est tout le sujet de la Bible Jésus étant bien sûr le sujet en lui-même, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour nous racheter par amour. Et finalement, on arrive à la fin de l'Apocalypse avec un monde justement où il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort, plus de chagrin, plus de peine, plus de tombe sur les collines, plus de fleurs pour les enterrements, mais on sera en présence du Seigneur ressuscité pour toujours, devant son trône. Ça, c'est pour replacer un peu tout l'Ancien Testament dans son contexte avant d'entamer la nouvelle alliance que Jésus a instituée dans son sang. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? On va peut-être arrêter là. Demandez à David si tu veux bien prier.